Avec Suno Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Une route, un stade, une chute, une collision et la vie qui bascule, celle où celui qui marchait, courait, le motard, le danseur, l'adolescent inséparable de son scooter se retrouve du jour au lendemain brisé au sens propre. Le corps qui ne répond plus, immobilisme, squelette et muscles indociles, le chaos physique atteint, étreint, l'esprit abasourdi de se plongeant dans l'inconnu. Après le choc viendra le temps de l'annonce, puis celui de la rééducation, de la réadaptation. Un cadre, des équipes de soins, le passage par un monde nouveau, se voir confier corps et âme à des mains inconnues, à un savoir-faire qui soulage, qui encourage, qui initie, qui rudoie avec bienveillance, gestes et expertise pour apprendre cette autre vie, celle du handicap, de l'autonomie partielle ou de la dépendance absolue, rééducation pour comprendre, rentrer chez soi et apprendre à avancer dans un monde qui, lui, continue de tourner comme si de rien n'était. Avec nous en studio, docteur Caroline Hugeron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste en médecine physique et réadaptation à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches, en région parisienne. Rééduquer un corps, c'est souvent le malmener pour son bien. Citation de votre livre « Prendre soin ». François Chevet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes kinésithérapeute en Seine-et-Marne, votre livre qui est publié aux éditions Don Quichotte. Et nous retrouverons tout à l'heure en ligne de Côte d'Ivoire le professeur Daniel Allot, chef de service de médecine physique et réadaptation du CHU d'Angrais à Abidjan. En fin d'émission, vous retrouverez votre bulletin de santé avec à la une l'OMS qui alerte sur la pollution atmosphérique. 90% de la population de la planète respire un air pollué. Et cet accord historique conclu en Afrique du Sud pour indemniser des mineurs victimes de la silicose. Notre numéro de téléphone, c'est le 33 84 22 75 75.
Priorité santé sur RFI.
Et on commence par une question de vocabulaire, si vous le voulez bien, docteur Caroline Hugeron. On va parler pendant cette émission de rééducation et de réadaptation. Quelle est la différence entre ces deux termes ?
Alors, la rééducation va s'attacher à essayer de, entre guillemets, réparer un patient, ou en tout cas de faire progresser des choses qui peuvent récupérer. Quand le patient ne peut pas récupérer, il va falloir adapter les choses autour de lui pour qu'il puisse se débrouiller le mieux possible. Ça, c'est la réadaptation.
Avec certains accessoires, avec aussi son cadre de vie, ça, cela couvre tout cela, la réadaptation ?
Exactement. Pour le patient lui-même, par exemple, si le patient ne va pas pouvoir récupérer la marche, mais on va adapter un fauteuil roulant, mais il va falloir aller au-delà, c'est-à-dire adapter son domicile, éventuellement adapter sa voiture pour qu'il puisse conduire, s'il souhaite reconduire, mais ça va aller également jusqu'à adapter son poste de travail et voir s'il peut circuler partout dans l'endroit où il travaille.
Alors, docteur Caroline Hugeron, vous êtes spécialiste des blessés médulaires, là aussi, hein, ça mérite une petite explication, ce terme n'est pas forcément connu du grand public. Les atteintes médulaires, quelles en sont les causes principales et les conséquences les plus fréquentes ?
Les principales causes, ce sont surtout les causes traumatiques.
Donc médulaire, c'est donc la moelle épinière.
Tout à fait, tout à fait. Donc moelle épinière, les lésions de la moelle épinière vont entraîner une paralysie. Paralysie des deux membres inférieurs, c'est une paraplégie, ou des membres inférieurs et des membres supérieurs, bien sûr sans oublier le tronc, ça c'est la tétraplégie. Il existe également des atteintes très importantes qui sont des atteintes vésico-sphinctériennes, donc la vessie, le tube digestif, des atteintes génitosexuelles, cutanées. On va avoir une atteinte vraiment très globale.
Pour parler concrètement, ça veut dire des problèmes d'érection, des problèmes d'incontinence urinaire et fécale.
Voilà, c'est ça.
Donc ça bouleverse totalement le quotidien.
Complètement.
On pense souvent aux problèmes de locomotion, mais il faut absolument pas négliger tout ce qui va avoir une conséquence directe, notamment aussi sur la qualité de vie.
Exactement. Le fauteuil roulant ou les difficultés de la marche, c'est ce qui se voit en premier. Mais la principale plainte des patients et le plus mauvais critère de qualité de vie, ce sont les troubles génitosexuels, les troubles vésico-sphinctériens qui ne sont pas bien gérés.
Alors je me tourne vers vous, François Chevet. Votre livre « Prendre soin » a pour cadre le centre de réadaptation de Coubert. D'abord, est-ce que vous pouvez nous décrire cet endroit, puisque c'est véritablement un lieu de vie dans votre livre? C'est quasiment une scène avec des personnages, avec des caractères, avec des rencontres, avec des dialogues.
Tout à fait. Le centre de Coubert, c'est un centre effectivement en Seine-et-Marne. Dès qu'on dit Seine-et-Marne, on sent déjà qu'on est parti un petit peu loin. On est loin de la ville. Mais
même s'il y a quelques dizaines de kilomètres de Paris.
Tout à fait. Mais vous verrez que là-bas, on est dans un monde à part, peut-être presque une ville à part, un rythme à part de vie qui est tourné et qui est centré pour la reconstruction du patient. Donc avec ses codes particuliers, avec des relations avec les soignés qui vont être très fortes, mais un peu isolées du quotidien des patients. Les patients sont là-bas toute la semaine. Il faut un certain nombre de semaines avant qu'ils regagnent, pour certains week-ends, leur domicile. Mais ce monde très dur, très spécial, ils le vivent tous les jours de la semaine.
Et vous décrivez justement les différents types de paralysies qui sont prises en charge sur place. Vous pouvez justement nous citer quelques-uns de ces gros problèmes que vous avez rencontrés et que vous avez été amené justement à prendre en charge.
Alors, comme l'a dit tout à fait le docteur, la paraplégie, la tétraplégie, ce sont aussi deux approches qui se ressemblent. Mais bien évidemment, les possibilités fonctionnelles ne seront pas les mêmes. Et le retour au domicile ne sera que plus compliqué quelquefois lors d'une tétraplégie. Et malgré tout, ce n'est pas forcément toujours cela qui va faire la différence. L'entourage, la famille, la force de caractère du patient, la manière avec laquelle on va pouvoir essayer de développer au maximum ce qui peut revenir, forgera également son projet de vie. Ça compte. Alors en plus des paraplégies, des tétraplégies, il y a évidemment des pathologies qu'on trouve habituellement en neurologie, des hémiplégies, des traumatismes crâniens, des scléroses en plaques, des maladies plus rares également, pour lesquelles on se place soit en bilan, soit en traitement sur une longue durée.
Ça peut sembler une évidence, mais en tout cas, ce n'est pas la gravité du mal qui va conditionner le ressenti du patient. Certains ont une atteinte qui pourrait, pour l'extérieur, paraître assez légère, et pourtant, le ressenti sera absolument, sera un bouleversement total, François Chevet, pour cette personne.
Tout à fait. D'ailleurs, on sait noter, on sait bilanter des incapacités. On sait mettre des échelles, des chiffres, des cotations. Et puis, il y a quand même toujours un indice qui va primer. C'est aussi la qualité de vie, le ressenti de vie. Et ça, effectivement, c'est très différent d'une personne à une autre.
Et on a du temps pour l'entendre, ça ?
Jamais suffisamment de temps. C'est aussi pour cela que le livre est écrit. C'est pour parler du facteur humain dans le soin, qui doit ne jamais être oublié. Et puis, défendre en même temps tout ce travail d'équipe. C'est une équipe médicale. Chacun a besoin de l'autre. Et on a la chance d'avoir des médecins forts qui travaillent dessus et qui essayent de donner une véritable puissance au projet de vie. Et pour cela, il leur faut des moyens et du temps.
Justement, on va décrire cette grande machine de la rééducation, de la réadaptation. Vous parlez, François Chevet, page 32 de votre livre, d'un basculement. Je vous cite, « L'annonce du pronostic est un moment d'une grande violence pour le patient. Le verdict ultime irrévocable appartient au médecin. » Pourquoi ? C'est justement ce médecin qui a cette parole qui change l'existence.
Tout simplement parce que le verdict commence à être approché sans une sphère de proximité. C'est-à-dire qu'on commence à questionner un peu son kiné, on questionne son infirmière, on questionne son aide-soignant. Est-ce que tu as vu des gens comme moi qui vont remarcher ? Est-ce que tu en as vu pour lequel ça ne récupérait pas ? Et puis on interroge aussi le voisin de chambre qui lui est dans une situation en fauteuil roulant depuis 6 mois. On se dit que c'est pas moi, mais peut-être que ça sera moi. Toutes ces zones un peu de questions, elles nous arrivent et chaque professionnel va répondre avec sa connaissance. Mais à un moment donné, il faut qu'une personne se prononce. Cette personne, c'est celle qui est le référent le plus ultime, celui qui a cette responsabilité, cette connaissance aussi pour le patient, et qui doit avoir, à un moment donné, savoir trouver le bon tempo pour commencer à annoncer des choses qui sont très dures. Elles ne se font pas brutalement en une fois, elles vont se faire par bilan successif, mais à un moment donné, il faudra quand même bien constater que peut-être il n'y a plus d'évolution pour le moment. Il va falloir coller au quotidien, travailler sur un projet de vie avec un fauteuil roulant, avec un environnement adapté. Et là, le médecin et les médecins très forts sont là justement pour poser ce pronostic.
Justement, vous écrivez pronostic évolutif qui est plus ou moins bien compris et accepté. Docteur Caroline Hugeron, est-ce qu'il y a, on va bien sûr pas parler de méthode, pas de truc, ce serait vraiment vulgaire, idiot, mais est-ce qu'il y a quand même une façon de dire les choses? Est-ce que c'est quelque chose auquel les médecins réfléchissent ensemble? Est-ce que l'équipe se réunit pour dire voilà comment on va formuler ce pronostic?
C'est pas forcément réfléchi en équipe avant l'annonce du pronostic, en sachant quand même qu'une fois qu'on annonce le pronostic, toute l'équipe ensuite est au courant. Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été compris? Qu'est-ce qui a été accepté? Pas accepté? Là, c'est vraiment extrêmement important que toute l'équipe soit cohérente et soit au courant de ce qui a été dit. Dans l'annonce du pronostic, il est extrêmement important d'être honnête. On va pas forcément être brutal et tout annoncer d'un coup, mais il est hors de question d'aller leurrer un patient. Même s'il s'accroche sur quelque chose, on ne peut pas cautionner, par exemple, pour être très concret, le fait qu'il va remarcher si ça n'est pas le cas. Ça n'est pas lui rendre service, c'est, comme je dis souvent, reculer pour mieux sauter. Et également, à partir de là, on va construire tout un projet avec toute l'équipe. Et si on n'est pas honnête dès le début, on va se retrouver face à des incohérences. Comment vous voulez apprendre à un patient à vider sa vessie par différents moyens ou à commander un fauteuil roulant s'il n'a pas compris lui-même pourquoi on fait ça? On va aussi travailler beaucoup pour qu'il soit acteur de sa prise en charge, pour qu'il apprenne différentes techniques, et pour ça il a besoin d'avoir compris sa pathologie et d'avoir compris ce qui va revenir ou ne pas revenir.
Alors, l'un comme l'autre, vous mettez en avant cette dimension interdisciplinaire, tous ces métiers, toutes ces spécialités qui interviennent. Justement, docteur Caroline Hugeron, comment est-ce que ça s'organise tout ça? Comment est-ce qu'on articule ces différents savoir-faire, ces différentes compétences quand on est dans un service de rééducation?
Je dirais, il faut déjà bien connaître son équipe. Je pense que monsieur Chevet confirmera. Il faut que tout le monde se connaisse bien et que tout le monde ait confiance également. Quand on part sur un objectif, tout le monde va dans cet objectif. Et ça se fait très concrètement au moment des visites, au moment de synthèse, où on fait le point soit avec l'équipe sans le patient, où on se fixe aussi entre nous les objectifs, mais également, il y a des moments où on va faire le point avec le patient, avec sa famille, pour que tout le monde travaille dans le même sens.
Alors, justement, cette longue liste des métiers, François Chevet, j'ai fait un petit peu un relevé dans votre livre. Vous êtes médecin, kinésithérapeute autour en studio avec nous, mais il y a tout un tas d'autres spécialités qui interviennent. Ergothérapeute, celle qui travaillait avec vous à Coubert, vous la surnommez Fébricole, cousin du kiné, acteur indispensable dans ce parcours de rééducation, infirmier, aide-soignant, assistant sociaux, psychologue, animateur, orthophoniste, orthoprothésiste, moniteur du sport. Moi, quand j'ai lu vos livres, ça m'a fait penser à une expression, on dirait association de bienfaiteurs. Chacun, il y a forcément des personnes qu'on rencontre qui sont pas attachantes, mais en tout cas, les personnalités qu'on voit, en tout cas, le sont terriblement. Et chacun sait où commence sa compétence et son savoir-faire, sait aussi où elle s'arrête.
Tout à fait. Et ça vient surtout du capitaine, du médecin. On parlait du travail d'équipe, de la coordination. Chacun sait effectivement au des cours des synthèses quelle est sa place, quel est son axe de travail, comment est au service du projet de vie qu'on va construire, comment est au service de la personne soignée. Et effectivement, chacun, même avec un rôle qui peut paraître infime, même un coiffeur qui quelque part va s'occuper en interne, parce que ça aussi, ça pousse pendant 6 à 8 mois ou 9 mois, les cheveux, il faut bien s'en occuper aussi. Et ben même dans ces moments-là, il y a aussi du prendre soin. Alors vous allez me dire, on n'est pas dans une compétence médicale. Mais ces gens-là, en travaillant depuis 15 ans, 20 ans, auprès de personnes en fauteuil, savent très bien qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire, savent très bien qu'il faut arriver en douceur, et sont même capables quelquefois de ramener des informations étonnamment alors qu'on ne s'y attendait pas.
Par aussi la capacité d'écoute, c'est pas tout simplement dire, c'est aussi
soigner,
entendre.
Soigner, c'est écouter en premier toujours.
François Chevet, docteur Caroline Hugeron, on va se retrouver juste après ce témoignage.
Priorité santé sur RFI.
Et ce témoignage, c'est celui de Norbert Pirot. Il a 54 ans aujourd'hui. En 2010, alors qu'il circulait à moto sur l'autoroute, une camionnette l'a percuté. Membre fracturé, côte, omoplate brisée, traumatisme crânien sévère. 9 semaines de coma artificiel à l'hôpital Beaujon dans les Hauts-de-Seine. Il a été ensuite transféré chez vous, hein, à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches, où vous exercez, docteur Hugeron. Centre où il était suivi pendant près de 4 années. Norbert Pirot qui s'entretient avec Tounef Mendy.
Tout a été touché, les 4 membres, tout le squelette, sauf la colonne vertébrale. Je suis resté pratiquement 5 mois, 6 mois à l'hôpital. Et ensuite, j'ai été transféré sur un centre de rééducation. Au début, la rééducation, c'est une rééducation qui est douce. C'est tout d'abord dans le lit. Bien souvent, ils étaient deux. Ils me relevaient doucement. Ils essayaient de me tenir comme ça, sur une certaine verticalité. Ensuite, ils me reposaient. Et ça, ils me le faisaient 5-6 fois pendant une petite heure. Et ensuite, une fois que je pouvais le faire, on me faisait le transfert donc du lit au fauteuil. Et ensuite, on me descendait en salle de rééducation. Là, j'avais 2 kinés qui s'occupaient de moi. Donc, on me mettait sur une table. Et puis, on me faisait des manipulations. Et surtout, on essayait de fermer le genou, de l'ouvrir, de le refermer, de l'ouvrir. Et ensuite, c'est d'essayer de muscler aussi le corps en prenant des poids qui sont très légers. Hein. Et tout doucement, allongé sur une table, on lève des poids, on les manipule, toujours en ayant le contact du kiné qui est près de nous. Et ensuite, le moment le plus fort pour moi, qui a été le fait de me remettre debout, qui a eu lieu quasiment 7 mois après. Donc la première fois, ils étaient à 3 autour de moi, c'était entre les barres parallèles. J'ai pas marché, hein. Je me suis juste levé du fauteuil. Ils me tenaient un à droite, un à gauche, puis un autre en face de moi. Et à un moment donné, ils m'ont lâché et j'ai pu tenir sur mes 2 jambes. Je ne pouvais pas marcher. Et ensuite, c'est quelques semaines après où j'ai fait 1 pas, plus 2 pas, plus 3 pas, et puis réapprendre à marcher comme un bébé, en fait. Hein, voilà. Et puis là, je suis passé à un autre niveau de rééducation, orthophonique, pour réapprendre le langage, etc. Le multitâche, essayer de me concentrer. Et j'ai eu des soins psychologiques. Moi, j'étais dans un espèce de déni. J'allais reprendre ma vie normale et j'allais peut-être même remonter sur une moto. Vous voyez ce que je ne fais surtout pas, je ne ferai certainement jamais. Et surtout, accepter que je ne serais certainement plus l'homme que j'étais avant. Et ensuite, à l'hôpital de Garches, j'ai eu des neuropsychologues. C'est toute une gymnastique intellectuelle des exercices que l'on vous fait. Et là, je peux vous dire que c'est extrêmement fatigant.
Avez-vous eu des moments, des phases de découragement ?
Pendant la rééducation, il y a eu des moments de découragement parce que moi, je trouvais que ça n'allait pas assez vite. Au bout d'un mois ou deux, je pensais que j'allais pouvoir me lever, aller à la salle de bain, prendre un repas normalement. C'est ce que je pensais. Eh ben non, la première fois qu'on m'a dit « non, ça va être dans un mois ou voire plus », là, je me disais, c'est pas possible. Comme j'avais les 4 membres de fracturés, il n'y avait que la tête qui bougeait. Donc, en fait, il fallait que j'attende que l'on vienne me donner à manger. Tout ce qui était café le matin, etc. J'attendais. Donc, je suis totalement à la merci des autres. Même la télé, même changer de chaîne, je ne pouvais pas le faire. Vous voyez, tout est bouleversé. Vous avez la douleur. Vous êtes un objet sur un lit. Donc c'est sûr qu'il y a eu des moments extrêmement difficiles, surtout dans l'intimité d'un corps, la fatigue également. Vous vous retrouvez seul avec vous-même.
Aujourd'hui, comment ça va ? Qu'avez-vous récupéré depuis ?
Déjà, je suis verticalisé. J'ai récupéré une marche à peu près normal, sur une centaine de mètres. Ensuite, il faut que je m'assoie. Alors, je conduis en voiture, boîte automatique. Mais attention, je ne veux pas conduire lorsqu'il y a beaucoup de trafic. Mon âge, ma condition physique a fait que j'ai récupéré quand même pas trop mal. Voilà.
Est-ce qu'on a un peu la pression à l'idée de retourner à la vie, disons, un peu plus autonome ?
Non, j'appréhendais pas parce que je voulais très très vite reprendre une vie normale que j'ai jamais repris d'ailleurs, mais bon. Donc ça s'est fait progressivement parce que il a fallu aménager un lit au rez-de-chaussée pour moi parce que naturellement je pouvais pas monter les escaliers. Et je dirais que ça s'est fait positivement, parce que je voulais retrouver ma cellule familiale. C'était pas au centre de rééducation, je reprenais du positif. C'était naturellement auprès des miens, où là, les batteries étaient rechargées à 1000%. Il y a des jours où ça va à peu près, je suis à 60% de mes capacités, et puis alors d'autres, je suis à 30, voire même 20%. Là, vous voyez, j'ai toujours des infections au niveau du matériel, parce que j'ai des clous, des vis, des plaques, j'en ai partout dans les quatre membres. J'ai encore aujourd'hui de la rééducation. Je vois mon kiné une fois par mois, parce que les douleurs sont toujours là. Et donc, j'ai une invalidité aujourd'hui à 100%. Donc, je ne peux pas reprendre d'activité professionnelle. Nous avons quelque chose d'important au niveau de l'association Victimes et Citoyens, c'est de venir en aide des personnes qui sont malheureusement victimes de la route, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le combat après est extrêmement long, et ce que l'on fait au niveau de l'association, au niveau du travail que l'on peut faire, on fait beaucoup d'interventions dans les lycées, dans les collèges, dans les entreprises, c'est de leur dire voilà, faites attention, regardez ce qui m'est arrivé, mais ce qui m'est arrivé peut malheureusement vous arriver, je ne vous le souhaite pas, mais moi c'est ce que je me disais d'ailleurs à moto, quand j'en voyais un par terre, je me disais non, pas moi. Un jour, ça a été moi.
Témoignage recueilli par Tout Neuf Mendy, un Norbert Pirot, membre de l'association Victimes et Citoyens qui lutte contre l'insécurité routière. Il y a une expression qu'on entend à plusieurs reprises, docteur Caroline Hugeron, normal, comme avant. C'est vraiment difficile, cette acceptation. Ça fait vraiment, peut-être même que c'est, est-ce que ce serait pas plus compliqué que la partie mécanique, cette partie psychologique et psychique pour le patient?
Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle le handicap invisible. Et d'autant plus que beaucoup de ces patients qui ont été victimes de traumatismes crâniens récupèrent, entre guillemets, plutôt pas mal physiquement et vis-à-vis de l'entourage. Ils marchent, ils se débrouillent à peu près comme avant, comme vous le dites. Et on a beaucoup plus de difficultés à intégrer ces difficultés cognitives, des petits changements de comportement, des troubles de la mémoire, des difficultés de raisonnement qui ne se voient pas au premier abord, qui peuvent passer pour des personnes qui ne connaissent pas forcément, pour des troubles du caractère, pour différentes attitudes plus ou moins nonchalantes ou éventuellement psychiatriques, alors que ce sont des séquelles tout à fait réelles de ce traumatisme crânien.
Justement, François Chevet, dans votre livre « Prendre soin », on perçoit à travers les différents portraits que vous brossez, ces caractères, des parcours de vie et cette puissance des relations qui se nouent avec des fois une forme d'intimité entre vous et les personnes que vous suivez. Est-ce qu'il y a certaines limites, des fois, que l'on dépasse? Est-ce qu'on l'accepte? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais?
La notion de limite, elle est effectivement toujours particulière avec un patient.
Surtout quand on vit aussi longtemps avec des gens aussi proches.
Les gens, on les côtoie en séance 5 jours par semaine, des fois 6 quand on vient de garde, des choses comme ça. Donc on finit vraiment par les connaître intimement. Pour certaines professions, prenons les aides-soignants ou les infirmiers, on a vraiment accès en même temps à la sphère intime. Les soins génito-sanitaires, ils sont là aussi, il faut s'en occuper. Et cette intimité, elle doit toujours être au service, de toute façon, du patient. On a des tentatives, effectivement, presque d'invasion. Il va falloir se protéger. Cette limite-là, on va la trouver. Alors, on pourrait, effectivement, dire qu'on va vous voyez les gens, mettre une distance. C'est bien de le dire comme ça. Et puis, en pratique, il y a autre chose qui se tisse. Si cette relation qui se tisse est toujours au service du patient, si elle ne nuit pas aux soignants, si elle est non-invasive et relativement protectrice, si elle est au service, alors oui, il faut la garder. Et le tutoiement existe, bien évidemment. Il doit amener un projet de vie. Quelquefois, il permet, pour certaines pathologies, certains patients, de coacher. Donc, on crée un rapport de confiance. Donc, puisque je t'accorde cette confiance, alors accorde-moi aussi tes efforts en face et on va voir où on arrive. Donc, cette intimité-là, on la trouve effectivement comme un sportif avec un coach de temps en temps. Oui.
Docteur Caroline Hugeron, justement, ces patients pris en charge sur le long terme, des liens particuliers qui se nouent. Comment fait le médecin pour conserver une distance adéquate, la bonne distance justement avec cette personne qu'il va peut-être connaître sur plusieurs années, voire évoluer sur plusieurs années?
Effectivement, on connaît effectivement tout de ces patients, de leur famille, leur mode de vie. On peut éventuellement être un peu intrusif. D'ailleurs, pour certains points, il faut l'être. Après, je pense qu'avec l'expérience, on finit par trouver cette distance nécessaire, et d'autant plus nécessaire qu'on va avoir des choses désagréable, que le patient ne veut pas entendre, et on va avoir ces choses-là à dire. Donc il faut savoir garder cette distance.
Alors François Chevet, vous avez noué des liens intenses avec ces patients. Ces patients, l'un d'eux est un personnage public, c'est le slameur grand corps malade. Fabien Marceau, c'est son vrai nom. Il adore le basket, il a été victime d'un mauvais plongeon. À Coubert, justement, une année de rééducation avant de retrouver l'usage de ses jambes. Le grand public le voit, hein, ce grand échalas avec sa canne et sa voix très très grave. En 2012, il a publié un livre Patient qui a été adapté au cinéma en 2017. Dans votre livre, il s'appelle Luc, hein, c'est bien ça. Il signe la préface assez puissante, hein, dans laquelle il souligne cette notion de dépendance fondamentale pour comprendre le lien entre le soignant et le patient dans un tel établissement. Il parle même de l'ascendant psychologique du personnel médical. Est-ce que le kinésithérapeute a conscience de ce pouvoir ?
Oui. Oui, très très vite. Et pas d'ailleurs que dans les centres de rééducation. Moi, j'ai également été pendant 20 ans kiné du sport. Et je vous promets que la relation avec un sportif de haut niveau, elle est très très forte. Et on comprend des fois où on pourrait en arriver avec le dopage. Ça, c'est une petite fenêtre que j'ouvre. Mais effectivement, on peut conseiller des choses, conseiller des attitudes, conseiller des rééducations. On voit qu'on a un pouvoir très important. Pour revenir bizarrement sur la question que vous posiez avant, prenons l'exemple de Fabien, de Grand Corps Malade. Je peux le dire actuellement, je ne suis pas de sa famille. C'est important de le dire. Parce qu'à chaque fois qu'on se croise avec Fabien, on n'est jamais devenu ami non plus. On a un respect énorme, on a des liens qui sont très forts, mais je suis quelque part toujours son kiné. Souvent, quand on se parle, on parle de choses médicales, pas que. Mais cette relation, elle s'est poursuivie. Cette relation de confiance entre le patient et le soignant, elle existe toujours et elle est forte parce qu'elle est respectueuse. Et que je sais que je dois toujours être à son service en tant que soignant pour l'aider. Et il s'est tissé une relation spéciale. C'est cette relation-là qui est forte entre un soignant et un soigné. On ne bascule pas de l'autre côté. On ne vient pas quelqu'un de la famille, on ne va pas avec eux le week-end.
Il n'y a pas un mélange des genres.
On protège notre vie, on protège la leur. Et on a quelque chose de très très fort qui est différent et qui est quelquefois difficile à définir. Je ne pourrais pas exactement dire à quoi ça ressemble. La seule fois où ces limites-là ont été franchies dans mon histoire personnelle, c'est avec une personne qui n'était pas mon patient.
Alors, on va se retrouver dans quelques minutes, juste après une petite pause musicale, justement, hein, surprise. Grand Corps Malade, extrait de son dernier album.
Bah ouais, c'est sûr, c'est la merde. C'est pas trop ça qui était prévu. Nos ambitions sont en berne et notre avenir en garde à vue. Et si c'est vrai que l'intelligence est la capacité d'adaptation, il va falloir la jouer rusée face à certaines situations. Avec une enclume sur le dos, les pieds liés et le vent de face, c'est déjà plus dur d'aimer la vie, de faire des sourires dans la glace. On a perdu la première manche, mais le même joueur rejoue. Le destin nous a giflé, on veut pas tendre l'autre joue. Alors va falloir inventer avec du courage plein les poches, trouver autre chose à raconter pour pas louper un deuxième coche. Il y avait sûrement plusieurs options et finalement on a opté pour accepter cette position, trouver un espoir adapté. Alors on va relever les yeux quand nos regrets prendront la fuite. On se fixera des objectifs à mobilité réduite. Là-bas au bout des couloirs, il y aura de la lumière à capter. On va tenter d'aller la voir avec un espoir adapté. Résiste. Même en milieu hostile, c'est la victoire qui existe. Ces cinq potes un peu perdus qui tentent de battre encore des ailes. C'est retrouver le goût de la sueur entre deux barres parallèles. Un espoir adapté, c'est de l'espoir bousculé. Parce qu'on est dos au mur, il n'y a plus de place pour reculer. Comme un instinct de survie, on pense encore à avancer. À la fin de quelque chose, il y a bien un truc à commencer. Après avoir nagé au cœur des points d'interrogation, on va sortir de la torpeur, certains diront reconversion. Là-bas au bout des couloirs, il y aura de la lumière à capter. On va tenter d'aller la voir avec un espoir adapté.
I've been trying to let it go, been trying to free my soul. But all the friends that I have lost and all the scars that I have left, my body embodies all my sorrows. My bones mirror my own morals. Now I don't need nothing more than to feel my heart bounded. I'll hold on to this second chance, I'll breathe.
Un espoir sans oublier ceux qui saignent, car dans cette quête on n'est pas tous logés à la même enseigne. Moi j'ai eu ma deuxième chance et même si je peux la rendre belle, je pense souvent à la tristesse du dernier sourire de Noël. Un espoir adapté c'est faire le deuil de tous les autres, sourire encore ne serait-ce qu'en hommage à tous les nôtres. Ceux qui étaient là qui m'ont porté au propre comme au figuré, ceux qui ont adapté leur vie pour rendre la mienne moins compliquée.
La voix d'Anna Kova avec Grand Corps Malade sur RFI Espoir Adapté. Grand Corps Malade qui écrit encore dans votre livre Prendre Soin, François Chevet, publié aux éditions Don Quichotte. Même allongé et dépendant des autres, tu as toujours un cerveau et c'est agréable que les gens s'en souviennent. Est-ce que c'est quelque chose qu'on apprend en école de kiné, François Chevet?
Oui, forcément on l'apprend. Mais c'est bien sur le terrain qu'on la vit. C'est-à-dire que la personne soignée, c'est une personne. Effectivement. Donc il y a un tas de choses, des passions, des vies, des rêves, en même temps que des objectifs. Et il ne faut jamais oublier l'humain derrière la personne soignée, bien sûr.
Docteur Caroline Hugeron, hein, cet humain, il a un entourage. Vous êtes spécialiste en médecine physique et réadaptation à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches, en région parisienne. On l'a dit tout à l'heure, il y a l'annonce, il y a le travail. Et comment ça se passe, justement, toute la relation, comment elle se met en place avec la famille de la personne qui va certainement vers le handicap?
Comme je le disais tout à l'heure, comme pour le patient, il faut aussi être complètement honnête et transparent avec la famille, être très clair sur les objectifs, expliquer pourquoi on annonce tel ou tel pronostic, expliquer ce qu'on va faire. Je ne ferme jamais les portes, effectivement, même si un patient va rester très gravement handicapé. Voilà, il y a quand même des perspectives, des possibilités. Alors, je pense pour un paraplégique, par exemple, de faire du ski adapté. Enfin, il faut laisser des perspectives, écouter beaucoup ce que la famille ou le patient a à dire, avoir de l'empathie, beaucoup de respect également. Je pense qu'à partir du moment où on respecte le patient et la famille, où on est dans une relation de confiance, les choses se font et on peut se permettre d'annoncer des choses graves, hein, extrêmement désagréables à entendre, mais qui finissent par être acceptées et on arrive à travailler ensemble.
Docteur Caroline Hugeron, François Chevet, on vous retrouve dans quelques instants. On va partir tout de suite pour la Côte d'Ivoire.
Priorité santé sur RFI.
Pour retrouver le professeur Daniel Allot. Bonjour professeur.
Oui, bonjour.
Vous êtes chef de service de médecine physique et réadaptation au CHU d'Angré à Abidjan. Professeur Allot, quel type de cas sont traités par votre service?
Merci bien de me passer à cette émission. Je voulais tout simplement dire que la médecine physique et de réadaptation en Côte d'Ivoire c'est une discipline émergente qui évolue depuis une dizaine d'années. Alors donc, elle est organisée autour de trois grands services sur toute l'étendue du territoire. Nous avons donc les deux principaux services qui résident dans la capitale Abidjan et notre service à l'intérieur du pays. Alors en ce qui concerne donc les accidentés de la voie publique et que nous rencontrons dans le service, il s'agit également des patients qui ont des fractures au niveau des membres inférieurs. Alors donc nous les recevons justement après un séjour passé donc dans les services de traumatologie. Ensuite prise en charge donc en libéral chez les kinésithérapeutes en privé. Nous les recevons donc avec beaucoup de complications au niveau orthopédique. Donc nous en rééducation nous les recevons avec des limitations au niveau des amplitudes articulaires, au niveau touchant donc le bassin, le genou, la cheville, en fonction vraiment du niveau du traumatisme observé. Et ensuite, nous la prenons en charge, bien évidemment, avec une équipe pluridisciplinaire faite de kinésithérapeutes et d'orthoprothésistes, lorsque véritablement l'indication d'un appareillage est posée. Voilà un peu comment s'est organisée donc la prise en charge chez nous en Côte d'Ivoire.
Et professeur Daniel Allot, vous êtes nombreux, vous êtes combien en Côte d'Ivoire à exercer cette spécialité?
Les spécialistes en médecine physique et de réadaptation, nous sommes autour de 14, essentiellement des universitaires. Nous avons donc à peu près 8 à 9 spécialistes en médecine physique et de réadaptation qui sont donc des universitaires et nous avons donc des médecins spécialisés formés donc en Côte d'Ivoire.
Essentiellement basé à Abidjan.
Nous avons donc événement essentiellement basé à Abidjan et puis une équipe aussi donc à l'intérieur dans une autre ville du pays Bouaké.
Alors, quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez, professeur Daniel Allot, justement pour cette prise en charge des personnes qui ont subi donc des accidents, des polytraumatismes?
Donc les services de chirurgie orthopédique notamment. Alors, qui nous adresse donc les patients à un stade beaucoup plus avancé. Alors que véritablement la rééducation dans le cas des traumatisés, donc de la voie publique, devrait se faire déjà à la phase initiale, c'est-à-dire que les patients hospitalisés dans les services de chirurgie, la rééducation devait se faire, débuter déjà dans les services et être prolongée après, donc dans un service ou dans un centre de rééducation. Donc le problème se pose au niveau de la collaboration. Mais les personnes sont adressées directement plus tard avec souvent des complications qui souvent nous amènent à recourir après à la rééducation et du point de vue à la chirurgie pour pouvoir lever l'obstacle avant de poursuivre véritablement les programmes de rééducation.
Merci beaucoup, professeur Daniel Allot, d'avoir été en ligne avec nous de Côte d'Ivoire. Vous êtes, je le rappelle, chef de service de médecine physique et réadaptation du CHU d'Angrée à Abidjan. On va partir sans plus tarder pour la Guinée, pour Conakry. On a un auditeur en ligne, un auditeur de Priorité Santé qui a une question à poser, peut-être à vous, docteur Caroline Hugeron. On vous écoute. Bonjour, Aboubacar.
Bonjour, madame Caroline.
On vous écoute, Aboubacar.
Ok. Au fait, comme je disais dans mon message, j'étais victime d'un accident de moto il y a juste 4 mois. Allô?
Oui, on est là, on vous écoute, on écoute.
Okay, voilà. Après la radiographie, ils m'ont notifié que j'ai une fracture du péroné gauche, sans déplacement important. Alors, j'ai sollicité le soin d'un orthopédiste traditionnel. Après la réduction de la fracture, il a immobilisé ma jambe dans un plâtre. Après une semaine d'immobilisation, j'ai été soumis à une série d'exercices et des massages du pied, 2 à 3 fois, 3 séances par semaine, afin d'éviter la raideur des muscles et les nerfs, aussi les articulations du pied. Bon, il m'a dit de commencer à poser mon pied sur terre tout en douceur, en m'appuyant sur une canne. Donc au début, c'était pas facile pour moi. Quand j'ai posé mon pied sur la terre, au début, voilà, j'avais senti une douleur atroce, j'ai aussitôt retiré. Donc, il m'a dit de mettre tout en m'appuyant sur une canne. OK, bon. Il dit, plus on commence tôt la réduction, qu'il aura de la souplesse. OK, au niveau des articulations et des muscles. Donc, j'ai commencé à marcher petit à petit à pas de caméléon, matin et soir. OK. Aujourd'hui, j'ai commencé à marcher normalement, mais tout va bien, quoi. Mais je sens un peu de douleur au niveau des muscles. OK. Voilà. Ma question était de savoir, combien de temps cette douleur va disparaître et combien de temps je peux commencer à courir.
Parce qu'aujourd'hui, Aboubacar, vous marchez tout doucement, vous claudiquez un petit peu, vous marchez avec prudence parce que vous avez encore peur d'avoir mal.
Oui, j'ai peur encore d'avoir mal parce que je marche tout doucement, je ne fais pas d'activité maintenant, voilà.
Docteur Caroline Hugeron, bien sûr, difficile de donner un pronostic sans voir Aboubacar, sans l'interroger plus longuement. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on peut dire sur son cas?
Bien sûr. Bonjour Aboubacar. Effectivement, c'est difficile. Après, c'est vraiment l'intérêt du suivi d'une fracture, mais de toute lésion par le chirurgien et ensuite par un médecin de médecine physique ou un kinésithérapeute. Et en fonction des radiographies, de l'examen clinique, on va pouvoir donner les consignes et préciser au bout de combien de temps on va pouvoir reprendre les activités.
Aboubacar à Conakry, est-ce que vous avez les moyens justement de consulter un kiné? Vous en connaissez autour de vous?
Bon, oui, j'en connais d'autres.
Et vous auriez les moyens pour aller le voir?
Oui.
Je pense que c'est donc
voilà,
ça.
Bon, je voudrais noter ça. J'avais fait la radio de contrôle 2 fois. On me disait qu'il y a la consultation, que c'est bon. Que de continuer sur cette lancée, que ça peut aller, quoi.
Justement, donc le meilleur conseil, c'est d'aller voir un kinésithérapeute et d'écouter ses conseils, de suivre ses conseils. Excellente journée à vous, à Conakry, en tout cas à Aboubacar. Ce qu'on entend depuis le début de cette émission sur ce soin, c'est une notion de temps. Docteur Caroline Hugeron, François Chevet, je vais vous laisser tous les deux réagir sur ce sujet. On parle beaucoup de la crise de l'hôpital en France, même si on le voit dans d'autres régions du monde, la crise est à un autre niveau. Mais il y a quand même ce temps, cette technique, ces actes chronophages. Est-ce qu'aujourd'hui, on soigne, on a suffisamment de temps, justement, François Chevet, peut-être vous, pour prendre soin?
Oui, je crois qu'effectivement, on a besoin pour prendre soin d'un temps repéré, pour que les gens puissent avoir le meilleur respect possible dans leur prise de conscience de ce qui leur arrive. On ne peut pas systématiser, dire quelqu'un a une paraplégie et puis au bout de 3 mois, donc il va sortir, donc il y aura un fauteuil, donc tout cela. Ça serait joli de pouvoir normaliser, de mettre des délais comme ça, conventionnels. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Bien soigner les gens, c'est s'adapter à leur évolution. Et puis c'est aussi quelquefois une complication médicale qui va arriver. On parle d'escar, on parle d'ostéome, des choses un peu techniques entre nous. Mais ça va nécessiter ce temps-là. Alors oui, on a des grilles d'analyse, de gestes. Si je peux noter en fin de journée que j'ai fait ceci, que j'ai fait cela. Mais quand j'ai quelqu'un qui est face à moi et que d'un seul coup je ne travaille plus avec mes mains, mais que je suis là pour discuter, pour écouter, pour avoir ce temps qui se dilate un peu, ce temps humain, il faut qu'il soit considéré. On est dans une société qui doit se faire face et se dire « j'ai décidé de soigner ces gens-là, de les réinsérer le mieux possible ». Il faut donc se donner les moyens. Il faut appuyer le parcours médical avec des moyens financiers adéquats avec notre ambition politique.
Docteur Caroline Hugeron, est-ce que c'est quelque chose aussi que l'on ressent dans un centre très connu, hein, comme celui de Garches, un centre de référence? Malgré tout, on se sent pressé?
Complètement. Effectivement, on travaille beaucoup plus vite, on choisit beaucoup plus rapidement les différentes aides techniques pour la réadaptation, on fait sortir les patients plus rapidement. On a toujours une contrainte de place, comme je dis en souriant, enfin... plutôt jaune. Je m'appelle madame, j'ai pas de place. C'est-à-dire qu'à chaque fois quelqu'un m'appelle pour prendre un patient,
on entend souvent parler de liste d'attente.
Voilà, il faut trouver de la place. Mais on ne peut pas descendre au-dessous d'une certaine limite. Il y a plusieurs temporalités. Le temps de la rééducation, c'est un temps qui est long. Il faut laisser le temps aux muscles de s'adapter, aux articulations de s'adapter. Et ça, il y a un temps qui est incompressible, un temps de cicatrisation osseuse également, d'adaptation du patient, d'apprentissage de certaines techniques. Il y a également une autre temporalité, comme le disait François Chevet, quand vous devez écouter un patient, même si c'est pas prévu, il a quelque chose à vous demander, il vient vous voir, il va falloir pouvoir lui accorder du temps pour l'écouter. Quand vous annoncez un pronostic, comme on le disait tout à l'heure, vous prévoyez un certain temps, et puis il y a des questions, il y a des réactions, vous n'attendiez pas forcément, il faut prendre plus de temps pour pouvoir expliquer, et ça devient incompressible.
Merci beaucoup à vous deux, hein, d'avoir répondu à notre invitation dans Priorité Santé. Docteur Caroline Hugeron, spécialiste en médecine physique et réadaptation à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches en région parisienne. Merci à vous, François Chevet, kinésithérapeute. On rappelle le titre, hein, de votre livre. Je le dis sans pudeur, il tire les larmes, prendre soin, aux éditions Don Quichotte. Et pour conclure, je vais citer un dernier extrait, page 129, je l'ai bien lu. Le poids des hommes debout. Des politesses étouffantes, des mépris discrets, des regards pesants, de commisération ou de simple curiosité. Il faudra s'y faire avec sans tendresse et sans faux espoir. Merci beaucoup à vous deux.
Bulletin de santé.
On se retrouve pour notre tour d'horizon des faits marquants de la semaine, le bulletin de santé que j'ai le plaisir de présenter en votre compagnie. Juliette Rangeval, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Et pour commencer donc, ces chiffres en forme de signal d'alarme qui ont été rendus publics par l'Organisation Mondiale de la Santé, c'était mercredi.
L'OMS estime en effet que plus de 90% de la population de la planète respire un air pollué, avec en cause les gaz rejetés par l'industrie et les transports, mais aussi la pollution de l'air intérieur. Et l'organisation souligne dans ces deux cas l'importance de l'impact de ces émissions polluantes pour la santé. Valérie Cohen.
Les chiffres donnent le vertige. Chaque année, la pollution de l'air tue prématurément 7 millions de personnes dans le monde. Un air vicié, respiré à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur des habitations, en particulier dans les pays pauvres, où la combustion de bois, de pétrole ou de charbon permet de cuisiner, de se chauffer ou de s'éclairer. Cet air intérieur pollué est à l'origine de la moitié des 7 millions de décès. Les particules fines respirées pénètrent profondément dans les poumons et dans le système cardiovasculaire. Elles peuvent ainsi aggraver ou provoquer des problèmes de santé, accidents vasculaires cérébraux, maladies cardiaques, cancer du poumon, pneumonie et autres troubles respiratoires. Plus de 90% des décès dus à la pollution de l'air surviennent dans les pays aux revenus faibles et intermédiaires, principalement en Asie et en Afrique, d'après l'Organisation mondiale de la santé. Une pollution qui touche les zones rurales et urbaines. En tête des mégapoles les plus polluées en particules fines figure New Delhi, le Caire, Caire, Dhaka, capitale du Bangladesh, Bombay et Pékin, selon l'OMS.
Valérie Cohen et Juliette Sill, l'OMS s'alarme donc sur cette qualité de l'air. Une autre agence des Nations Unies, la FAO, s'inquiète, elle, pour la qualité des sols.
L'Organisation de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture estime en effet que la pollution des sols représente une réelle menace, une contamination qui a plusieurs causes, l'industrialisation, les guerres, les activités minières et l'intensification de l'agriculture. Avec notamment la forte augmentation des pesticides dans certaines régions au cours des 10 dernières années, multipliée par 4 au Bangladesh, par 6 au Rwanda et en Éthiopie, des sols contaminés par des produits chimiques organiques, l'arsenic, le plomb, les produits pharmaceutiques. Et cette pollution affecte, Caroline, d'après la numéro 2 de la FAO, la nourriture que nous mangeons, l'eau que nous buvons, l'air que nous respirons, comme la santé de nos écosystèmes.
Et la FAO s'inquiète, Juliette, et regrette dans le même temps le manque de données, d'indicateurs pour se faire justement une idée précise du phénomène.
L'organisation dénonce en effet d'énormes lacunes et des études limitées aux pays développés. En Australie, on recense 80 000 sites contaminés, pollution de 16% des sols chinois.
En Afrique du Sud, cet accord financier historique pour indemniser des mineurs.
Oui, un accord signé jeudi entre 7 géants miniers d'Afrique du Sud qui devraient verser 5 milliards de randes, soit l'équivalent de 330 millions d'euros, à 100 000 employés des mines d'or et à leurs ayants droit, des mineurs victimes de la silicose depuis 1965.
La silicose, c'est cette maladie des poumons provoquée par l'inhalation de particules de poussière dans les mines ou dans des carrières. Son impact sur la santé respiratoire est irréversible. Et Juliette, cet accord intervient après 3 années de négociations.
Et c'est une première dans le pays. Après une plainte en nom collectif dans ce secteur clé des mines, cet accord doit être validé par la justice sud-africaine avant d'entrer en vigueur, certainement à l'automne prochain. Des études ont montré qu'entre 22 et 36% des mineurs sud-africains travaillant dans le secteur aurifère sont touchés par la silicose.
Santé et justice, cette fois en France, où le parquet de Paris a ouvert une enquête dans le sillage de la plainte du Comité national contre le tabagisme.
Plainte contre 4 fabricants de cigarettes, accusés de tricher sur les taux de goudron et de nicotine par le biais de minuscules trous percés dans les filtres de cigarettes qui faussent les tests. Une plainte pour mise en danger de la vie d'autrui qui vise Philip Morris, British American Tobacco, Japan Tobacco International et Imperial Brands.
Et dans l'océan Indien, l'île française de la Réunion, cette épidémie de dengue sans précédent.
L'Organisation mondiale de la santé a recensé 1816 cas de dengue entre le 1er janvier et le 23 avril, avec 50 hospitalisations à la clé. Ce virus de la dengue, Caroline, il est transmis par les moustiques du genre Aedes, près de 2000 cas en moins de 4 mois, contre près de 400 pour toute l'année 2017.
En France, toujours, la fin de la phase des consultations des États généraux de la bioéthique.
Conclusion lundi dernier de ces débats, amorcés à la mi-janvier, autour de 9 thèmes. Celui qui a le plus mobilisé le public, c'est procréation et société, procréation médicalement assistée et gestation pour autrui. Le Comité consultatif national d'éthique planche maintenant sur son rapport de synthèse qui sera publié début juin, avant la prochaine loi bioéthique attendue pour l'automne.
Et pour conclure ce bulletin de santé, Juliette, des chiffres sur le nombre de médecins en activité aujourd'hui en France.
226 000 médecins en activité en 2018, soit 10 000 de plus qu'en 2012, d'après le ministère de la Santé, avec une hausse du nombre de spécialistes, plus 7,8%, alors que le nombre de généralistes stagne et représente 45% de la profession. Côté âge, près d'un praticien sur deux à 55 ans ou plus. Et autre tendance, la profession se féminise.
Merci beaucoup Juliette Rangeval et à bientôt pour un nouveau bulletin de santé. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. C'est Toussaint Maquet, Ophélie Lassen, Didier Bleu. Et lundi, c'est Diarran Diaye que vous retrouvez derrière ce micro. Nous, on se retrouvera dès mercredi. À très vite.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.